France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous êtes sur France Culture en ce dimanche matin. Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Après avoir parlé dimanche dernier de Jean Weiner, résistant adventiste durant la Seconde Guerre mondiale et juste parmi les nations, nous continuons ce matin, comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs, avec cette fois-ci une femme exceptionnelle, elle aussi reconnue juste parmi les nations, Adélaïde Oval, une psychiatre, fille de pasteur, qui marquera son temps par son combat et sa résistance face aux médecins nazis. Pour en parler, je reçois Denis Labelle, écrivain et médecin humaniste.
Bonjour.
Bonjour Denis Labelle, bienvenue dans Solae.
Merci pour votre invitation.
Nous parlerons dans quelques instants de l'héroïne dont vous racontez l'histoire dans votre livre aux éditions Plon, Adélaïde Oval, la psychiatre qui a tenu tête aux médecins nazis. Mais peut-être avant, pour faire connaissance, quelques mots au préalable qui vous concernent. Je vous présentais comme écrivain et médecin humaniste. L'écriture sous presque toutes ses formes. Il y a des nouvelles, des romans, des récits, des pièces de théâtre. Qu'est-ce qui pourrait qualifier l'écriture de Denis Labelle?
Écoutez, je crois que j'essaie de faire une écriture fluide, facile à lire, et que les gens ne lâchent pas le livre quand ils l'ont commencé. Voilà, c'est un peu mon objectif. Non, c'est pas facile. Et je veux que quand ils ont fini le livre, ils se soient enrichis, qu'ils aient appris quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ça a été mon obsession, que ce soit dans les romans ou dans les essais.
Et quelque part, on retrouve cela dans le livre dont on va parler, parce que c'est un livre qui nous capte très sincèrement. Quand on commence la lecture, on a envie d'aller jusqu'au bout, et ça se lit aussi très facilement.
J'ai pas eu de difficulté, parce que c'est un tel personnage que moi, il m'a fasciné. Je l'ai rencontré comme ça par hasard, puisque j'ai une maison dans les Cévennes, et donc je suis à côté du musée des déserts, donc le grand centre protestant. J'ai la chance donc de connaître beaucoup de gens dans ce coin-là. Et il y a des expositions itinérantes. Et il y avait cette exposition sur Adélaïde Oval, et qui était très intéressante. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Cette personne, cette femme fantastique, au courage inimaginable, est totalement inconnue.
Alors, avant de revenir sur elle, j'évoquais aussi le côté médecin humaniste. Alors, ce terme, il y aurait beaucoup à dire de vos multiples engagements tout au long de votre carrière et aujourd'hui encore. Nous n'en aurons pas le temps, mais depuis 1970, comme médecin coopérant en Tunisie jusqu'à récemment autour de la fin de vie, vous n'avez cessé d'être engagé, en fait, comme médecin dans des causes qui vous semblent justes et nécessaires.
Oui, j'ai toujours pensé que la médecine ne s'arrêtait pas au lit du malade, mais qu'il fallait aller au-delà, voir dans la société ce qui n'allait pas, et ce qui favorisait ces maladies-là. Et donc, je me suis occupé à la fois de l'hôpital, parce que j'ai écrit un livre sur Tempête sur l'hôpital, pour alerter la situation de l'hôpital public. Et puis, je me suis occupé des personnes âgées, puisque j'étais le premier à écrire un livre sur les maisons accueillant les personnes âgées, ce que j'appelais l'or gris. 27 ans avant le scandale qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et je me suis aussi occupé de l'Afrique, non pas pour aller faire des soins, parce que je trouve que les temps ont changé, mais pour aider les médecins là-bas à rester sur place. C'est tout à fait anormal que l'on attire toute cette jeunesse médicale avec un prix considérable là-bas sur le plan sanitaire. Alors c'est inutile ensuite d'aller faire des soins et de compenser ce que nous avons d'une certaine façon favorisé.
Adélaïde Oval, c'est le sujet de notre émission. J'ai envie de commencer par la fin du livre. Les mots que vous reprenez, qui sont signés par Marie-Claude Vaillant-Couturier. Adélaïde, c'est une conscience.
Oui, alors Marie-Claude Vaillant-Couturier, il faut savoir que c'était une journaliste communiste, militante, etc. Et qui a été, comme moi, comme beaucoup de gens, fascinée par cette personnalité. Oui, c'est une conscience. C'est une conscience, et je dirais que c'est une conscience particulièrement importante aujourd'hui, où les nuages noirs s'accumulent, dans notre horizon, et que l'on a besoin de phares, on a besoin de lumière, on a besoin de savoir où on va, et de gens qui rappellent les bases essentielles des valeurs morales.
Alors on va parler de son histoire, peut-être dire quand même qu'il y a un projet actuel autour de ce personnage. Vous pouvez nous en dire quelques mots, on en est au début, mais voilà.
Au balbutiement, mais c'est tout de même un pari formidable, c'est-à-dire que grâce au pasteur Krieger,
et président de la Fédération Protestante.
Président de la Fédération Protestante, et avec le grand rabbin de France, il y a... une volonté de créer un comité pour que Adélaïde Oval entre au Panthéon. Alors, bon, c'est un pari essentiel parce que cette femme est peu connue.
Oui.
Mais elle est peu connue parce qu'elle est modeste. Et c'est tout de même pas normal que les gens modestes
ne soient pas
des phares pour l'animalité.
Voilà, c'est ça. Alors, on l'a surnommée Heidi. Elle est alsacienne, protestante. Elle fut déportée en 1943 à Auschwitz, puis à Ravensbrück. Elle n'est pourtant ni résistante, ni engagée politique. En fait, elle a simplement défendu une jeune juive rouée de coups par des SS et puis pris position. On peut la présenter de la sorte.
Oui, c'est une personne qui m'a fasciné justement parce qu'elle n'est pas dans le schéma de résistant, d'engagé politique... de juive, puisqu'elle n'est pas juive, elle est arienne, puisqu'alsacienne, et que elle a eu justement cette une sorte de normalité du bien. Hein? C'est-à-dire que c'est une personne un peu lambda,
ouais.
Vous, moi, mais qui s'est nourrie pendant longtemps de valeurs morales, ce qui fait que le jour où elle était confrontée à des choses inacceptables, elle a pu y répondre de façon positive. C'est ça qui est intéressant chez cette personne-là.
Quels sont les grands traits de caractère, justement, que vous repérez chez elle?
Bah, je dirais d'abord c'est une patriote.
Ouais. Hein.
La premier accrochage qu'elle a avec des soldats allemands, c'est qu'elle les rappelle à l'ordre lorsqu'ils crachent sur les Français et sur les Françaises. Et elle parle allemand, donc elle comprend tout et elle les remet à leur place. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle a un principe fondamental qui est que tous les êtres sont égaux. Ça paraît banal de dire cela, mais non. En 1942, c'est pas une facilité et ça coûte cher, puisqu'en effet, elle défend une jeune fille juive devant elle qui est tabassée par des SS, et elle leur dit, mais arrêtez, elle leur dit en allemand, et les SS sont stupéfaits, ils disent, mais enfin c'est une juive. Elle répond, oui, mais les juifs sont des gens comme nous. Et elle répète cette phrase-là devant un tribunal de Gestapo, qui leur dit, si vous êtes, vous soutenez les juifs, vous allez porter l'étoile jaune et vous allez subir leur sort. Ouais. En 1942, c'est une audace incroyable et je crois que ça vaut la peine de rendre hommage à ce courage.
Ouais.
C'est aussi une grande croyante.
Ah oui, hein, oui, bien sûr.
C'est une grande croyante. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle n'est pas mystique, je crois pas. Hein, la famille m'a dit, ne faites pas une mystique. Je dis non, c'est pas une mystique, c'est une femme qui est très croyante, qui prie, mais qui s'y se pose des questions quand elle descend en enfer. Dans les enfers des camps de concentration, elle a des doutes, mais qui n'en aurait pas dans une telle situation. Mais elle tient bon. Et elle tient bon tout le temps de sa vie, avec une foi qui évolue, mais
qui la porte en quelque sorte.
Qui la porte, oui.
Qui la nourrit, j'aurais envie de dire, parce que quand vous dites que naturellement elle se positionne, on sent aussi que tous ses enseignements, tout ce qu'elle a appris, et notamment de la Bible, sont là en elle et la font naturellement réagir.
Elle est fille de pasteur.
Oui.
Elle est fille de pasteur, donc elle était imprégnée de la lecture de la Bible. Et du reste, cette sympathie pour les Juifs vient aussi du fait qu'elle estimait que son père lui disait que c'était le peuple du livre, comme eux. Donc voilà, il y a un point de... Donc voilà, elle est prête, je dirais, à répondre à cette demande de justice et à cette demande d'égalité. Et donc sa foi va avec cela. Et ses valeurs sont très forte. Elle a des valeurs morales très fortes. Et c'est ce qu'elle dit souvent, à un moment dans ses écrits, c'est que souvent, les gens peuvent basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'ils ont construit. C'est-à-dire que si vous laissez passer une faille, si vous laissez passer une idée d'injustice, de racisme, d'antisémitisme comme aujourd'hui, ou d'autres...
La faille peut s'ouvrir très
vite. La faille s'ouvrit, on bascule d'un côté ou de l'autre. Si par contre, vous avez développé des valeurs morales, des valeurs fortes, à ce moment-là, le jour où les événements arrivent, vous tenez bon.
Très intéressant. Et il y a quatre grandes parties, je disais, dans votre récit, qui commencent tous de la même façon, au nom d'un principe, au nom de l'éthique, au nom de la justice et enfin au nom de sa liberté. Ces mots font véritablement résonance avec la vie d'Adélaïde.
Ah, j'ai pris ces étapes de vie
ouais.
Et j'ai trouvé qu'en effet, c'était assez, assez facile, fin de compte, de séparer ces étapes de vie en fonction de ces éléments essentiels de l'égalité, de l'éthique, de la justice et de la liberté. Et à chaque fois, j'illustre par sa vie, par l'évolution de sa vie,
bien sûr, et
ces
comprend.
Éléments-là.
Alors, je vous propose d'écouter des propos d'Heidi, repris et lus dans l'émission Une histoire particulière. Alors, ça n'est pas sa voix, évidemment. Une émission qui était consacrée à Adélaïde Oval, diffusée sur France Culture. Et c'est un extrait où elle évoque la question des sélections dans les camps de concentration.
Je suis convaincue que tous les événements terribles dans le monde débutent par de simples actes de lâcheté. À Auschwitz en particulier. Nous, médecins prisonniers, avions à affronter la terrible question des sélections. Les SS nous demandaient de décider quel déporté était trop malade ou trop faible pour arriver à travailler correctement. Et si nous sélectionnions ces personnes, nous savions parfaitement qu'elles seraient immédiatement expédiées dans les chambres à gaz. J'ai refusé d'écrire « incapable de travailler » sur aucun rapport médical.
Alors c'est notamment dans ce chapitre au nom de l'éthique que vous racontez en détail toute cette partie de sa vie dans les camps et sa confrontation avec ses médecins nazis.
Alors il y a deux choses. Pour reprendre le texte qui a été dit juste avant, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette personne, c'est qu'elle sait, elle doute même quand elle agit. C'est-à-dire que tout est compliqué. C'est-à-dire que même quand elle aide des personnes, elle les cache. Elle les cache dans les endroits où les SS ne vont pas, c'est-à-dire les tuberculeux ou ceux qui sont atteints de typhus. Elle ne les sauve pas automatiquement, puisque régulièrement les SS passent et disent « tous les tuberculeux, allez à la chambre à gaz ». Donc, elle est traumatisée par cette histoire, en disant « les choix que je fais, même mes choix que je pense positifs, sont parfois négatifs ». Et c'est une réflexion très intéressante.
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle se retrouve elle-même donc en camp de concentration. Et dans ces camps, finalement, quand on sait ses qualités, ce qu'elle sait faire, on va vouloir l'utiliser finalement.
Elle a passé 2 ans et demi en camp de concentration. Un exemple, Primo Levi, c'est 9 mois.
Ouais.
Simone Veil, c'est beaucoup moins. Donc c'est un temps énorme. Alors, comme elle était médecin, on la place à l'infirmerie, enfin ce qu'on appelle l'infirmerie, où il n'y a rien du tout, mais enfin où là sont placés tous les gens les plus malades, et elle est confrontée aux médecins nazis qui font des expérimentations. Et on parle toujours de Mengele, mais non, ils étaient nombreux à faire des expérimentations, c'est ça qui est terrible. Kloberg, Schumann, Wirtz et encore Tretz à Ravensbrück. Et donc tous ces médecins veulent des médecins pour les aider. Et elle dit à chaque fois non. Alors que d'autres médecins détenus ont dit oui. Et c'est ça sa force. Et alors elle dit cette phrase absolument extraordinaire, si vous me permettez, je la cite. « Ce que j'ai fait n'est rien. Si j'ai eu la chance d'être capable de refuser, ce n'est certainement pas grâce à moi-même, mais simplement parce que j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important que de sauver sa vie. »
Oui. Tout est dit là.
Oui, c'est la modestie de la personne qui est aussi un élément qui m'a fasciné.
Avec nous, Denis Labelle, la pasteur Sophie Ollier, qui est chroniqueuse dans Solae, mais qui est aussi donc pasteur à la paroisse Pantemont-Luxembourg à Paris. Sophie, vous vouliez revenir ce matin, je crois, sur l'audace de la résistance. Bonjour tout d'abord.
Bonjour,
et bonne année.
Bonne année.
Cette notion d'audace qui fait écho naturellement à tous ces personnages rencontrés ces dernières semaines. Il y a ceux du roman Clandestine d'Élise Vonesch, de Jean Weiner, d'Adélaïde Oval ce matin, et peut-être même d'une autre façon, de l'apôtre Paul dont on a parlé et dont on parlera encore avec le pasteur Pierre Magne de la Croix. Donc voilà, on est curieux de vous entendre, on a envie de vous entendre.
Alors j'aimerais commencer par une citation. « Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les handicapés, je n'ai rien dit, je n'étais pas handicapé. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. » Puis ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Ça, ce sont les mots du pasteur Martin Niemöller à la suite de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Alors on connaît plusieurs citations de ses paroles qui sont différentes avec des listes de victimes différentes. Et oui, le monde avance, mais finalement à chaque période, sa liste de déshumanisés.
Liste de déshumanisés, oui.
Et oui, oh oui, malheureusement, oh oui. Et je suis certaine que pour aujourd'hui, on pourrait faire une liste avec ces mêmes mots. Dans ce monde tumultueux où l'individualisme prend souvent le pas sur la solidarité, où l'agitation des opinions politiques crée des clivages de plus en plus profonds, il devient, je crois, de plus en plus nécessaire d'oser résister. Résister non pas à des idéologies abstraites, mais à l'un des plus grands dangers de notre époque, et peut-être à travers les siècles, la déshumanisation de l'autre. La déshumanisation, cet acte subtil et insidieux qui consiste à réduire l'autre, qu'il soit proche ou lointain, à une simple chose, à un être privé de dignité, sans valeur ni respect. Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, et cette réalité fondamentale nous rappelle que chaque être humain, quelles que soient ses croyances, sa culture ou son origine, possède une valeur infinie, et vous nous en avez parlé, Denis, Adélaïde s'est portée porte-parole de ça. Pourtant, au fil du temps, nous assistons à une perversion de cette réalité, la tentation de traiter l'autre comme inférieur, comme un objet, voire comme un obstacle même parfois. De nombreuses voix se lèvent aujourd'hui pour imposer cette vision déshumanisante, celle des extrémismes, des discriminations, des politiques de rejet.
Et ajoutons, Sophie, que les moyens modernes de communication permettent justement à cette déshumanisation de se diffuser à une échelle jamais vue auparavant.
N'est-ce pas ?
Malheureusement.
Des mots cruels sont lancés, des images et discours de haine circulent absolument sans problème aujourd'hui. Derrière tellement de clics, de tweets, de messages, se cache souvent une volonté d'effacer l'humanité de l'autre, de réduire son existence à une étiquette ou à une catégorie. Les migrants, les pauvres, les exclus, les malades mentaux, les femmes, les personnes âgées, et puis on peut rajouter à ça finalement toute la dimension ethnique ou d'origine. Tant d'individus sont aujourd'hui l'objet de mépris, de rejet, d'indifférence. Et pourtant, en tant que chrétien, est-ce que vraiment on peut rester silencieux face à cette déshumanisation ? N'est-ce pas là même le centre de l'enseignement du Christ, l'appel à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à voir l'image de Dieu en chaque être humain, à ne jamais réduire quelqu'un à sa condition sociale, à sa couleur de peau, à son orientation sexuelle, à son sexe, à son travail, à sa religion, à ses origines ou que sais-je ? Ce que le Christ a incarné, c'est une parole de vie et d'accueil, une parole de justice et de paix, une parole d'amour et d'attention à l'autre dans un monde qui préférait l'injustice et l'indifférence. Oser résister à la déshumanisation, c'est refuser de céder à la tentation du mépris, c'est dire non à la facilité de classer les autres en bons ou mauvais, de les juger par leur appartenance. C'est choisir d'élever l'autre plutôt que de l'abaisser, de le respecter plutôt que de le juger. Oser résister, c'est aussi œuvrer pour un monde où chacun, qu'il soit fort ou fragile, riche ou pauvre, étranger ou citoyen, puisse être vu et reconnu dans sa dignité unique et irremplaçable. Et dans la vie quotidienne, finalement, ça commence par des petits gestes, par des petites résistances, mais ô combien essentielles. Écouter celui ou celle que l'on étiquette rapidement comme différent, faire connaissance, tendre la main à celui ou celle qui est rejeté, prendre le temps de comprendre celui ou celle que l'on ne connaît pas. Résister, c'est pas toujours une lutte bruyante, une révolution visible, mais une révolution du cœur et des actes dans la simplicité des rencontres humaines.
Et cette résistance chrétienne, loin d'être passive, est finalement profondément active, n'est-ce pas ? Elle nous pousse à naturellement agir, à lutter pour la justice, à défendre les opprimés, sans inverser les rôles de bourreau et de victime.
Oui, tout à fait, exactement. Et cette résistance, elle nous invite, alors on va dire pour les chrétiens, à vivre à la suite du Christ en redonnant à chaque être qui croise notre route sa dignité d'être humain. C'est ce que fait Jésus dans tous ses miracles, hein. Et aussi, il nous dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Cette parole, c'est une invitation à regarder le monde avec les yeux du Christ, à ne jamais oublier que derrière chaque visage se cache une histoire, une souffrance, mais aussi une espérance. Oser résister face à la déshumanisation, c'est ne jamais se laisser séduire par les discours de haine ou de division, mais se laisser guider par l'amour, ce principe fondamental du christianisme. Et c'est pas bisounours, hein, ce que je vous dis là. C'est avoir le courage de dire que l'autre, loin d'être une menace, est une richesse, une opportunité d'apprendre, de grandir et de bâtir ensemble un monde qui est plus vrai, plus fraternel, plus juste. Et dans un monde où tant de forces cherchent à déshumaniser, osons être des témoins vivants de l'humanité retrouvée, de la dignité restaurée, de la beauté de chaque personne. C'est là notre appel chrétien, et cela devrait être simplement notre appel humain. Voilà où se trouve notre véritable résistance. Alors oui, résiste, prouve que tu existes, et que l'autre aussi.
Merci France Ollier ou Sophie Gall. Enfin, merci à vous, Sophie, et merci à l'autre, quel qu'il soit de toute façon. Je vous propose de revenir sur l'histoire d'Adélaïde Oval avec un extrait là tiré d'un documentaire intitulé Adélaïde H, une résistante alsacienne qui a été réalisé par Daniel Kling en 2021 pour France Télé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du côté protestant de la Fondation Bercier. Nous y entendrons Christophe Keller, le fils de la nièce de Berthe, sa fidèle amie.
Heidi est une femme libre, une résistante dans l'âme qui refuse toute compromission et toute forme d'injustice. Au journaliste anglais qui la questionnera sur son expérience à Auschwitz, elle répondra « Ce que j'ai fait ne représente rien, parce que j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important dans la vie que de sauver sa peau. »
Pour moi, c'est une figure d'autorité. Tout petit, j'avais évidemment aucune idée de son passé, mais elle avait une autorité naturelle évidente. Et donc, en gros, ce que je savais, c'était qu'elle avait été arrêtée pendant la guerre pour avoir pris la défense d'une famille juive, et qu'une fois déportée, elle avait exercé en tant que médecin dans le camp, et elle avait refusé de participer à des expériences horribles. Alors, j'ai eu des discussions avec Heidi plus grand, sur différents sujets, mais pas sur celui-là. Et vers la fin, enfin, quand j'étais adolescent, jeune adulte, que sa mort se rapproche, disons les 5-6 dernières années, notre sujet de conversation principal, c'était la musique.
On retrouve ce caractère que vous évoquiez, plein d'humilité, finalement. Elle préfère jouer du piano.
Absolument. Disons qu'il y a... Après sa libération, il y a, je dirais, deux choses, entre guillemets, qui l'ont permis de se reconstruire. Ce sont les femmes, c'est-à-dire que ses amis, dont Berthe, dont vous parlez. Absolument, qui était une compagne qui l'a accompagnée pendant de très nombreuses années, 30 ans ensemble. Et puis il y a toutes les déportées qui venaient la voir, Germaine Tillon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, enfin Anise Pestel-Vinet, enfin... Beaucoup d'autres déportés qui gardaient. Et le jour où elle les recevait, elle s'enfermait. Personne n'avait le droit d'entrer, me racontait justement Christophe. Et voilà, cette femme était musicienne. Elle jouait admirablement du piano. Et elle avait une relation avec Bach tout à fait particulière. Oui. Et elle reconnaît que Bach, c'était l'essentiel de la musique. Ses neveux essayent de le faire savourer d'autres musiciens, et en fait, elle revient toujours à Bach. Et le jour où elle ne peut plus jouer Bach, voilà, c'est un grand désarroi. Je voudrais, si vous permettez, moi je voudrais citer une phrase, parce que c'est une femme d'une extrême exigence pour elle, mais aussi pour les autres. Et elle dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui dit « Qui peut imaginer, puisqu'on parlait de la déshumanisation tout à l'heure, qui peut imaginer le poids immense qu'aurait à l'heure actuelle la condamnation de ces procédés de mépris de l'humanité, si cette condamnation était prononcée par une chrétienté qui aurait toujours été fidèle à sa mission. » Et je trouve que c'est important qu'elle dise ça aussi.
Oui, tout à fait.
Elle rappelle aux gens que voilà, il y a des valeurs qui sont absolument essentielles et on ne peut pas marchander ces valeurs. Et ça, moi, ça me touche beaucoup.
Et on en a besoin encore aujourd'hui, je crois, d'une façon
encore
évidente.
Plus aujourd'hui, je dirais.
Merci beaucoup, Denis Labelle. On rappelle évidemment le titre de votre livre, parce que le mieux, c'est de le lire. Adélaïde Oval, la psychiatre qui a tenu tête aux médecins nazis chez Plomb. C'est un livre dont on ne sort pas facilement, je le disais, car il vous capte, à cause de la vie de cette femme, bien sûr, mais aussi, et je voulais le signaler, grâce à votre très belle écriture. Je signale également que sur Internet est disponible votre conférence donnée le 31 juillet dernier dans le cadre des conférences d'été données justement au Musée du Désert sur Heidi. C'est précisément à retrouver sur la page YouTube du Musée du Désert. Dans l'esprit du combat d'Adélaïde Oval et de ces protestants qui ont fait face au nazisme, il y a bien sûr la figure du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Un film sort justement ce mercredi 22 janvier, intitulé « L'espion de Dieu ». Il revient sur la vie et l'histoire de ce théologien allemand. Je vous propose d'entendre l'audio de la bande-annonce.
Cet homme a enflammé l'imaginaire de la nation, Dietrich.
Le courage est une denrée rare. Vous irez en Angleterre, en tant qu'espion.
À quoi sert l'Église, si elle ne parle pas pour les victimes de l'État ?
Le rôle de l'Église est de prôner la paix, pacifiquement.
Vous voulez dire en silence ?
Il faut que tu comprennes que ta vie ne sera plus la même après que j'aurai prononcé ces mots. Nous avons élaboré un complot pour assassiner le Führer.
Alors, guide nos mains. Guide nos mains tremblantes.
Dieu a envoyé un prophète à l'Allemagne, un vrai sauveur !
Notre silence, en réponse au mal, constitue un mal en soi.
Les mots n'ont plus aucun sens, Dietrich. Ce sont des potences, des balles. Après cela, il sera impossible de faire marche arrière.
Dieu nous pardonnera-t-il si nous passons à l'acte ?
Nous pardonnera-t-il si nous choisissons de rester les bras croisés ?
C'est mercredi sur les écrans, le film L'Espion de Dieu, avec le soutien de la Fédération protestante de France d'ailleurs, autour de l'histoire de Dietrich Bonhoeffer. On y entend et l'on voit dans ce film d'ailleurs aussi, Sophie, le pasteur Niemöller que vous évoquiez dans votre chronique. Au revoir Denis.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Merci à vous, merci Sophie aussi pour votre chronique de tout à l'heure. Nous nous quitterons avec un cantique qui fera, il me semble, un bel écho à l'histoire d'Adélaïde Oval, un cantique de confiance face aux difficultés de la vie, c'est « Prends ma main dans la tienne ». C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Nicolas de Pagraf à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, ce matin de 9h30 à midi, c'est la matinée écuménique avec les chrétiens de Lyon. Cette année, les églises chrétiennes célébreront partout dans le monde les 1700 ans du rendez-vous fondateur du christianisme, le Concile de Nicée. En France, la célébration de la matinée écuménique du Grand Temple de Lyon donnera le coup d'envoi cette année anniversaire pour tous les chrétiens. Mais à suivre maintenant, ici, sur France Culture, vos informations suivies de Talmudique, présentées par Marc-Alain Wacknin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.